Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean Poteau, je suis prof à Sciences Po Bordeaux. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter Mathieu Ozano. J'ai un double plaisir, d'abord parce que vous allez voir, il a écrit quelque chose qui est tout à fait remarquable. Et puis il se trouve qu'il a été, non pas mon étudiant, parce qu'on a vérifié, il n'a pas le souvenir de m'avoir eu comme prof à Sciences Po Bordeaux, et moi j'avais pas le souvenir de vous avoir eu comme étudiant.
On s'est croisé dans les couloirs
entre 93 et 96, puisque vous êtes diplômé de la promotion 96. Et donc moi je suis toujours très fier, hein, je suis un peu un des piliers de Sciences Po Bordeaux, donc je suis toujours très fier de voir que nos étudiants font de très belles choses par la suite. Hein, voilà. Là vous avez ce qu'on peut appeler un pavé, hein, dans le bon sens du terme. Et Mathieu Ozano a une vraie expérience, on va dire, et une vraie expertise, les deux, sur le sujet qu'il a eu l'idée de traiter, hein, or noir, hein, la grande histoire du pétrole. D'abord parce que ça fait quand même de très nombreuses années, on en parlait à l'instant, que vous suivez ces questions, que vous animez aussi un blog hébergé par le Monde depuis 2010, qui s'appelle « Oilman, chronique du début de la fin du pétrole ». Déjà, ça, c'est, on dit, le titre a du sens. Et puis alors, concrètement, si on veut parler tout simplement chiffres, hein, j'en donne trois. Hein, le livre fait 713 pages, mais 40 pages de notes infrapaginales. Hein, oui. J'ai connu des thèses qui étaient moins documentées. 12 pages d'index de non-cité, une table des matières de 12 pages. Bref, c'est un travail, je pense qu'on peut dire, de référence. Hein, pour l'instant, et jusqu'à vous, j'allais dire, moi je connaissais l'or noir d'Hergé, hein, avec un L.
Le pays de Tintin, hein, au pays de l'or noir.
Hein, voilà,
et je commence en précisant que l'or noir, le vrai pays de l'or noir, à mon avis, ce sont les États-Unis.
C'est les États-Unis. Arabes. Alors le livre, c'est pas les quatre saisons de Vivaldi, mais il y a quatre grandes parties, et on pourrait presque dire qu'il y a cinq saisons. Il y a quatre grandes parties, c'est la germination, hein, alors c'est très bien parce qu'on va y revenir, mais ça va jusqu'en 1945, le printemps 45-70, l'été 70-98, et puis l'automne 98-20, et deux points d'interrogation, 2000, et on ne sait pas la fin. Alors, et le chapitre 30, qui est le chapitre dernier, est intitulé, c'est une forme de conclusion, il n'y a pas de conclusion à proprement parler, hein, ça reste...
Non, l'histoire continue.
L'histoire continue. Et le chapitre 30 pose une question, l'hiver demain, hein, vous voyez, donc printemps, été, automne, l'hiver demain. Première question que je voulais vous poser, Mathieu, je ne vais pas vous demander de faire des pronostics et de lire dans le marc de café pour prédire l'avenir, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces deux points d'interrogation, à savoir 20, quelques, deux points d'interrogation, et puis l'hiver demain, point d'interrogation.
Ouais. Merci déjà, merci à vous d'avoir lu attentivement le livre. Je vois que vous avez également pris pas mal de notes.
C'est pas une soutenance de mémoire, ne vous inquiétez pas.
Et puis merci à Mola. Pour moi, c'est le temple bordelais du livre. Et voilà, pour moi, c'est un plaisir et un honneur de revenir ici. Moi, ma question... Je suis pas historien, je suis journaliste. J'ai travaillé notamment au Monde pendant pas mal d'années. Et en tant que journaliste, on regarde le présent et puis de temps en temps, on se risque à regarder un peu l'avenir. Et il se trouve qu'au début des années 2000, quand moi j'ai commencé à peu près ma carrière de journaliste, j'ai rencontré non pas des écologistes chevelus et rêveurs, mais des pétrogéologues, des gens absolument, absolument sérieux et informés qui disaient Mad Max, c'est peut-être pour bientôt. Quand on est journaliste, on est toujours à l'affût de bonnes histoires, comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant que ce discours soit tenu par des pétroliers. Et ce discours, c'était une question énorme à l'échelle historique et irrévocable, qui est la question de savoir quand l'humanité se retrouvera à court de pétrole. Voilà. C'est-à-dire qu'on... On exploite une ressource qui est notre ressource principale, ou en tout cas indispensable, jusqu'à présent, pour une infinité de fonctions techniques, qui est le pétrole, qui est notre principal carburant, le plus efficace, le plus omniprésent. Et on sait que c'est une ressource finie. Et on sait que, tôt ou tard, cette ressource se tarira. Alors c'est assez amusant, parce que quand j'y réfléchissais rapidement, au tout début que je m'intéressais à cette question-là, on peut avoir l'image fausse que la fin d'une ressource, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire on consomme, et puis d'un jour... Un jour, il n'y en a plus. Et en fait, quand on passe un peu plus de 5 minutes à réfléchir à ça, on se rend compte qu'évidemment, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a eu déjà beaucoup de zones pétrolières qui sont entrées en déclin et qui se sont à peu près taries.
Bakou, par exemple.
Voilà. En fait, un certain nombre de zones d'exploitation pétrolière anciennes, plus ou moins anciennes, sont aujourd'hui taries. Et d'autres sont en cours de déclin rapide. On a un exemple tout près de nous, enfin plus près de Paris que de Bordeaux, qui est la mer du Nord, qui est une ressource qui a été exploitée relativement tardivement, qu'on a commencé à exploiter à la fin des années 70, et qui a franchi donc ce qu'il est convenu d'appeler son pic de production. C'est-à-dire que toute ressource finie, son exploitation part de zéro, elle connaît une progression, elle passe par un sommet qu'on appelle un pic ou un plateau, selon comment ça se passe, et ensuite, inexorablement, mathématiquement, c'est une gaussienne, ce que les mathématiciens appellent une gaussienne, c'est une courbe en cloche, et une fois franchi un maximum, toute la question est de savoir quel est le niveau et quel est le moment auquel arrive ce maximum, ça, il y a une incertitude, mais... on a quand même des éléments très, très tangibles pour interpréter et anticiper les phénomènes de déclin. Et donc au début des années 2000, au moment précisément où notre première source à nous, Européens, la mer du Nord, est entrée en déclin, et c'était un déclin qui avait été prévu, dans ce cas-là, on savait très précisément... Les pétroliers savaient précisément ce qu'il y avait comme ressources exploitables. Et donc, en 2000, comme prévu 5 ou 6 ans auparavant, la production est entrée en déclin. Et c'est le moment où un certain nombre de pétrogéologues se sont posé la question à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si on regarde toutes les zones pétrolières, les pétroliers ont dit au début des années 2000, on aura un problème... là, maintenant.
Mais alors, pardon de poser la question, parce que c'est vraiment une question de naïf et de non documenté, mais est-ce que ça veut dire qu'on a tellement cartographié le sous-sol de la planète qu'on sait exactement ce qu'il y a?
Non, il peut y avoir des surprises.
Deuxième question, est-ce que les moyens techniques sont susceptibles d'évoluer d'une façon telle qu'on pourrait aller en chercher?
Bien sûr.
Là où on ne sait pas les trouver aujourd'hui.
Voilà, alors c'est ce qui a été pronostiqué. Je faisais allusion aux gens, à ces pétrogéologues qui m'ont mis dans le sujet, qui m'ont mis dans le bain au début des années 2000. C'est la prédiction qu'ils ont faite s'est réalisée. C'est-à-dire que ces gens-là, donc notamment Jean Laherrère, qui est un des meilleurs pétroliers, géologue du pétrole, pétrogéologue, merci.
Que vous remerciez d'ailleurs à la fin.
Oui. Alors. Lui, il a tout simplement découvert le pétrole algérien. Donc ça fait déjà de lui quelqu'un qui est respecté dans le métier. Et il a prévu avec exactitude, avec un collègue à lui, en 98, il a dit, bon, bah, dans 10 ans, la production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, atteindra son pic. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout le pétrole qu'on développe, toutes les ressources pétrolières supplémentaires qui permettent de compenser le déclin d'un certain nombre de zones historiques, en Algérie, en Indonésie, en mer du Nord, je l'ai mentionné, où on est confronté à un déclin géologique, c'est-à-dire que le verre se vide, littéralement. Toutes les autres formes de pétrole que l'on développe aujourd'hui sont soit dites non conventionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait du pétrole, soit extrêmes, c'est-à-dire que ce sont des pétroles qu'on va aller chercher à 10 km sous la surface des flots, par exemple, au large du Brésil.
Un coût considérable.
Voilà. Ou demain, peut-être, j'espère pas, en Arctique. Voilà. Ouais. Et les pétroles non conventionnels, on en connaît un certain nombre. Les premiers à s'être développés, bien entendu, ce sont les agrocarburants. Donc toutes les manières, toutes les techniques chimiques qu'on a pour transformer de la canne à sucre, du maïs et un certain nombre de choses en carburant. Ça, c'est la première source de pétrole non conventionnel. Et puis, il y en a d'autres exemples qui ont émergé rapidement et très fortement. au Canada avec les sables bitumineux. Et puis l'exemple, bien entendu, qui a des chances de faire bouger un peu cette frontière ultime des ressources pétrolières, qui est le pétrole de schiste. En France, on parle beaucoup de gaz de schiste.
Vous dites bien que c'est le pétrole.
Voilà. Ben, en fait, ce sont des molécules très proches. Ce sont toujours des hydrocarbures, gaz naturel et pétrole. Le gaz naturel, ce sont des formes
les
plus légères.
On va revenir sur le...
Et aujourd'hui, il y a une résurgence. Terminer, il y a une résurgence qui est tout à fait inattendue de la production américaine, puisque les pétroles de schiste, c'est essentiellement aux États-Unis, après une séquence historique qui a duré de 1970 jusqu'à 2010, où la production américaine de pétrole, je faisais allusion tout à l'heure au fait que le vrai pays de l'or noir... N'en déplaise aux tintinophiles, ce sont les États-Unis, où ont été forés deux fois plus depuis que n'importe où ailleurs sur Terre. La production américaine en 1970 a atteint son pic du pétrole conventionnel. Il y a eu un déclin qui a duré et qu'on pensait inexorable, qui a duré jusqu'à ce qu'on soit capable de développer cette fameuse production de pétrole de schiste avec la fracturation hydraulique, les forages horizontaux. Et cette séquence de déclin, c'est-à-dire au cours de laquelle la puissance américaine a vu sa source première d'effectuation de sa puissance. Quand on parle de puissance, on parle d'énergie, littéralement. Le déclin des capacités de l'industrie américaine à mettre suffisamment de carburant dans la machine économique américaine a eu, à mon sens, tout un tas de conséquences géopolitiques délétères, dont le destin de l'Irak en particulier est une conséquence, à mon avis, directe, tout à fait directe. Donc c'est-à-dire que, et ça c'est le cœur de mon projet, c'est d'essayer de regarder les limites de la volonté humaine. C'est-à-dire qu'une contrainte physique, comme par exemple le déclin de la production américaine de pétrole conventionnel à partir de 1970, peut influer massivement, de manière inexorable, sur la perpétuation de la puissance de l'Empire américain, et donc, du coup, le destin influer sur le destin de nations gâtées par le fait même qu'elles ont sous leurs pieds, on parle de malédiction du pétrole, c'est pas un vain mot, ni en Irak, ni au Nigeria, ni au Venezuela, ni au Mexique.
L'excrément du diable.
Oui. Voilà, c'est une expression qui a été cette expression de merde du diable. Alors la personne qui l'a recueillie l'a transformée chastement, mais c'était pas l'expression originelle. Il se trouve qu'un des deux fondateurs de l'OPEP, qui avait des ambitions tout à fait étonnantes, enfin en tout cas inattendues, qui était un écologiste et qui se disait l'OPEP. Donc le cartel des pays pétroliers, des grands pays producteurs, ça sera un moyen de préserver ce don du ciel, cette manne, et donc du coup précisément de ne pas dilapider cette manne. Et après plusieurs décennies d'expérience amère, Juan Pérez Alfonso, qui est un Vénézuélien qui a été ministre du pétrole et qui a été un des deux donc fondateurs un des deux instigateurs de la création de l'OPEP. Quand il a vu son pays, le Venezuela, être sapé, gâté par cette manne qui se transformait en corruption, qui se transformait en violence massive, il s'est exclamé que le pétrole était la merde du diable.
Alors, on va aborder un certain nombre d'aspects, historiques, parce que c'est tout à fait passionnant. On découvre, on redécouvre des choses essentielles. On a compris dans votre projet que vous évoquez ce qu'on appelle l'humanité technique. C'est très intéressant. Bon, j'allais dire, vous n'êtes pas pour rien passé par Sciences Po Bordeaux avec ce cher Jacques Ellul qui a plus inspiré ma génération que moi.
Parce que, c'est fou parce que j'étais vraiment soit ignorant, soit paresseux, mais j'ai découvert Jacques Ellul après.
Ah, mais ça, parce que nul n'est prophète.
C'était un nom sur un amphi. Voilà, je ne savais pas qui. Voilà, donc Jacques Ellul, j'imagine que beaucoup de gens connaissent ici.
Moi, j'étais son dernier assistant. Il y a entre 79 et 81, avant qu'il prenne sa retraite. Donc il a été. À l'origine, c'était un historien du droit, Jacques Ellul. Ce n'était pas du tout ni un sociologue ni un philosophe, mais enfin, il était extrêmement éclectique. Et donc, entre autres, il a écrit ce livre tout à fait étonnant en 1954, La technique ou l'enjeu du siècle, traduite aux États-Unis en 1961, pas par n'importe qui, par Aldous Huxley.
J'ignorais complètement.
Le meilleur des mondes, le meilleur des mondes. Voilà.
Bon. Ah, j'ignorais complètement.
Alors, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'expression l'humanité technique, elle renvoie aussi à cette dimension. Et vous dites le pétrole, il y a quatre mots, une sorte de carré tragique, à défaut d'être magique. Omnipotent, polyvalent, polymorphe et omniprésent. Alors, en même temps, dans l'histoire que vous nous racontez, je voudrais commencer par exemple, c'est pas anecdotique, mais vous nous rappelez que Noé a utilisé 18 000 litres de bitume pour rendre imperméable son arche et qu'il y avait aussi du bitume dans la tour de Babel.
Oui.
Normal, puisque nous sommes pour cette dernière entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'actuel Irak qui regorge de pétrole. Donc, même la mère de Moïse, d'après la Bible, utilise l'asphalte et la poix pour enduire le berceau de Moïse avant de le déposer dans le Nil. Vous dites que le pétrole, dès l'aube de la civilisation, il sert à bâtir, à enduire, à lubrifier, à guérir et à brûler. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'on en a mangé du pétrole ? Oui. Façon soleil vert un peu.
Oui, oui, alors c'est pas un nutriment, mais par contre, ça a été un remède de, ça a pu être un remède de grand-mère et ou un remède de charlatan. Ouais.
Aux États-Unis.
Des médecins charlatans ambulants. Il se trouve que le père même de John Rockefeller, donc le fondateur de la Standard Oil, vraisemblablement l'homme le plus riche de tous les temps, son propre père, qui était quelqu'un qui avait une vie très dissolue, qui était bigame, joueur, grand buveur, violent, était un médecin ambulant, comme on voit dans les Lucky Luke ou dans les films de John Ford. Et alors, on n'est pas certain, mais il est vraisemblable que dans sa pharmacopée frelatée, il y avait probablement, parce que c'était très courant à l'époque, de l'huile de pierre. Donc, on vendait comme un peu un produit magique et un remède miracle. Mais de fait, ça a été utilisé comme pour tout un tas d'usages. Ben, c'est comme toute graisse, comme toute graisse lubrifiant et solvant naturel et source d'incandescence. Il se trouve que, et c'est ça qui en tant qu'écologiste, éthiquement écologiste, c'est ça qui m'intéresse fondamentalement, c'est que ce truc-là, cette huile de pierre, propose des propriétés en elle-même qui sont tout à fait indispensables et le pétrole devient instantanément un produit de première nécessité. Et dans cette histoire-là, je prends cette image-là, il se trouve qu'il n'y a pas de Thomas Edison, où il n'y a pas de Marie Curie, il n'y a pas besoin. Et la capacité à massivement transformer l'expérience humaine du pétrole sans avoir... Alors, il y a beaucoup de science dans l'exploitation du pétrole, et surtout au fur et à mesure que... Mais les propriétés sont là. Et même la possibilité de raffiner le pétrole, ça demande aucune espèce de savoir... Il n'y a pas besoin de chimiste pour ça.
C'est moins compliqué que l'énologie.
C'est probablement moins subtil que l'œnologie. Ah, oui. Ceci dit, il y a des crues, des cépages presque, on pourrait dire. Ouais. Parce que chaque
gisement a ses propriétés.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retrouve c'est toujours un cocktail un peu différent des mêmes molécules d'hydrocarbures.
Le 27 août 1859, le colonel Drake,
le faux colonel,
il fore le puits de la première ruée vers l'or noir, pardon. Alors, c'est incroyable, le forage est à 21 mètres de profondeur. Donc, c'est en Pennsylvanie. Alors, c'est un faux colonel de l'armée américaine, un peu comme le faux colonel qui était l'agent d'Elvis Presley.
Oui, exactement. C'est très courant, en fait. On s'auto-intitule pour se donner un peu de prestige.
Alors, en même temps, dès la naissance de ce produit, il y a déjà un conflit, une bagarre entre les Azéris et les Russes pour savoir où a eu lieu le premier forage. Hein.
Ouais.
Alors, c'est quoi, si tant est qu'on puisse le savoir, la vérité historique ? Est-ce que c'est un produit russe ou est-ce que c'est un produit américain ?
Alors, la première ruée vers l'or noir, elle se passe donc en 1859, juste avant la guerre civile, la guerre de sécession aux États-Unis. Il se trouve que l'histoire du pétrole a été largement racontée par les Américains et que, assez complaisamment, je pense, on n'est pas allé trop chercher si d'autres ne l'exploitaient pas. Alors, le pétrole est exploité depuis l'aube de l'humanité dans des carrières ou sur des affleurements. Le fait de forer spécifiquement pour aller chercher du pétrole. C'est un petit peu... En fait, j'ai découvert que Drake n'est pas le premier, alors que l'histoire officielle considère que c'est lui le premier.
C'est Alexeïev. Hein,
que... C'est un... Alors, il y a des puits, effectivement, du côté de Bakou. Et il y a aussi plusieurs... Il y a quelqu'un qui exploite du pétrole en Pennsylvanie, avec du forage, avant Drake, mais c'est un personnage... Encore une fois, c'est à moitié un médecin charlatan. Mmh. Et puis, il était associé... Il se trouve qu'il y a beaucoup de présidents des États-Unis dans l'histoire du pétrole. Il était associé au président probablement le plus honni, ou en tout cas le plus méprisé dans l'histoire américaine.
Après
George W. Bush, puisque c'était le président qui a précédé... qui était juste... Enfin, c'est le président du déclenchement de la guerre de sécession, en fait. Ouais. Donc, dans l'histoire américaine, on lui reproche de ne pas avoir su éviter ça. Mais il y a quand même une histoire officielle, il y a quand même une hagiographie des pétroliers. Les pétroliers, dans la culture américaine en particulier, c'est très très important. Bon, on se souvient de Dallas, de la série Dallas. C'est le prolongement d'une culture populaire qui a de la renaissance de la fierté du Sud, par exemple, puisque la grande richesse économique... Il y a un autant. En faisant mes recherches, j'ai découvert. Je suis un peu cinéphile, mais j'étais très triste d'être passé jusque-là sur ce film. Il y a un autant en porte-le-vent du Texas qui s'appelle Giant, qui est le troisième. Mais je connaissais pas.
C'était le troisième film de notre du héros, jeune acteur américain qui va se tuer en voiture, James Dean. Ouais. C'est Giant. Mais voilà. Là, c'est un film même. Il est mort quand le film sort.
Hein, oui. C'est un film remarquable.
Ah, oui,
c'est
tout à fait. Oui,
c'est vraiment la grande épopée. Et on sent déjà les ambiguïtés. D'abord la puissance de la caste des pétroliers sur l'emprise qu'ils ont sur l'histoire économique américaine.
Alors ça, c'est très frappant.
Et puis la violence.
Très vite, il y a des familles qui apparaissent. Alors il faut quand même que vous nous parliez de Rockefeller Senior. Vous dites que c'est peut-être l'homme le plus riche de tous les temps. Hein. Vous dites
qu'il
était le plus grand philanthrope de tous les temps, de parrain de l'ultralibéralisme et d'institutions mondiales pivot. Alors d'abord, parlez-nous de Rockefeller. Vous disiez son père. Quand on parle de Rockefeller, c'est le premier célèbre. Hein,
c'est la première grande fortune du pétrole.
John D. Rockefeller Senior.
Voilà, qui est pratiquement. Enfin, le mot même Rockefeller est même pratiquement synonyme de richesse incommensurable. Ouais. Il se trouve que c'était un grossiste qui faisait du fret sur les grands lacs aux États-Unis et ayant beaucoup d'intuition, beaucoup de talent et beaucoup de foi. C'est un homme de foi, c'était un baptiste.
Et c'est l'éthique protestante de Max Weber ?
Moi, je pense que c'est un idéal type, en tout cas un champion de l'éthique protestante.
Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, son salut, c'est sa fortune, et la fortune, c'est son salut. Il n'y a vraiment pas de...
Dans la grâce.
Pas de solution de continuité. Voilà. Il voit la manne du pétrole. Ça, je trouve ça très intéressant. Il voit la manne du pétrole précisément comme une manne, c'est-à-dire comme un don de Dieu. Il y a un moment où les sources premières, donc le pétrole commence à être exploité en Pennsylvanie. Et très très vite, il y a précisément un pic de production et un début de déclin. Et il y a certains des premiers associés de Rockefeller qui paniquent, qui commencent à vendre leur part. Et Rockefeller dit non, le Seigneur pourvoira. Et le Seigneur a pourvu, puisqu'on a trouvé du pétrole dans bien d'autres endroits aux États-Unis et en quantité bien plus impressionnante que ce qu'on avait trouvé en Pennsylvanie. Et les profits à travers le... Moi, c'est pas tellement le personnage de Rockefeller. D'ailleurs, il y a une petite... je l'ai pas là. Mais enfin, il y a Bertrand Russell, donc, qui est un immense philosophe anglais qu'on connaît pas très très bien en France, qui a dit il y a deux personnes très très importantes dans l'histoire économique, dans l'histoire de la révolution industrielle, c'est Bismarck, on comprend pourquoi, et Rockefeller. Et ce qui précise, et ce que je trouve remarquablement intéressant dans la perspective que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des phénomènes physiques qui influent sur l'histoire humaine sans que les humains aient vraiment est vraiment barre sur ces choses-là. Il explique que Rockefeller n'a pas eu l'idée. Il n'y a pas de génie chez Rockefeller. C'est-à-dire que c'est un excellent opportuniste. Mais que la source de sa puissance, de sa richesse, elle était là. C'est-à-dire que si le Rockefeller ne l'avait pas exploité, quelqu'un d'autre l'aurait fait à
Mathieu,
sa place.
Vous dites que c'est un excellent opportuniste, c'est aussi un sacré manœuvrier. Enfin, c'est...
Oui, mais ça va avec.
Racontez-nous cette histoire du massacre de Cleveland, 1871. Il tue la concurrence, en quelque sorte.
Oui, alors c'est quelque chose qui était, c'est un phénomène qui était relativement courant, c'est-à-dire que dans tout un tas de dans à peu près toutes les filières industrielles, c'est un peu comme dans une partie de poker, c'est-à-dire qu'au bout de quelques donnes, au départ, tout le monde part à égalité, et au bout de quelques donnes, ouais. Je ne sais pas si vous avez pratiqué le jeu de poker...
Ou le Monopoly, hein.
Oui, alors c'est encore plus saillant, je trouve, dans le poker, et c'est vraiment le jeu du capitalisme, parce qu'au bout de quelques donnes, vous avez un pot, enfin, vous avez amassé une quantité d'argent qui vous donne un avantage qui devient très rapidement très improbable, enfin... très difficile à attaquer.
Qui crée un déséquilibre. En tout
voilà. Et les grands capitaines d'industrie du XIXe siècle ne s'embarrassent pas beaucoup de chevalerie et d'éthique dans la manière dont se joue la concurrence. Donc effectivement, le massacre de Cleveland, c'est une entente entre Rockefeller, qui avait les raffineries, et les grands patrons des compagnies de chemin de fer américaines, qui s'associent pour dire, toi, Rockefeller, je te transporte ton pétrole parce que c'est toi qui as le plus gros trafic et tu auras un rabais. Et tous tes concurrents, par contre, je vais leur mettre non pas un rabais, mais je vais les surfacturer. Donc c'est assez radical et on est très très loin des notions de concurrence parfaite vendue ensuite par, enfin en tout cas proposée par l'école libérale ou l'école néoclassique qui se trouve être largement sponsorisée par des réseaux Rockefeller. Donc il y a une grande hypocrisie dans tout ça.
Très concrètement, alors c'est la naissance de la Standard Oil. Hein. Alors ça, c'est côté américain, mais alors il se passe des choses, j'allais dire, du côté russe et mer-caspienne. Et là, on voit arriver, par exemple, les frères Nobel. J'allais dire qu'on n'attendait pas forcément... on connaît le Nobel du prix Nobel, célèbre inventeur de la dynamite. Mais enfin, il avait deux frangins.
Oui, alors c'était les deux... la famille Nobel était les premiers industriels de la Russie tsariste. Ils fabriquaient des canons, des châssis de canons, des fusils, tout un tas de produits mortifères pour l'armée tsariste. Et puis... Un jour que l'un des frères Nobel
1873, hein.
se rendait pour aller acheter du bois dur pour des crosses de fusil, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prometteur. C'était le premier boom, le début du très anarchique, très violent, du boom du pétrole de Bakou, qui se trouvait être la plus belle source de pétrole sur le continent eurasiatique, connue depuis la nuit des temps.
Oui, tout à fait, voilà. Et alors là, on va voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une ambiance de Far West, en fait, de western, quoi. De l'autre côté, j'allais dire, au bout d'une ligne Caspienne-Mer Noire, il y a Batoumi, hein, qui existe toujours, hein, pas très loin de Sotchi, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Et Batoumi devient le port d'exportation, dans quelque sorte, du pétrole de la Caspienne. Et là, vous dites... précisément, c'est une ville champignon, modèle Far West. Les types portent tous une arme à la ceinture. On dirait les villages fantômes du Klondike.
Il n'y a pas eu de. Enfin, c'est tout à fait. Bon, si on a lu Jack London, la Klondike, la rue Everlord, il n'y a pas de source de profit, de source de richesse plus massive que l'or noir. L'or noir, c'est pas un vain mot. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça ce bouquin l'or noir. Au-delà de ce côté très juvénile du début de cette histoire, les profits que intrinsèquement l'or noir est capable de cracher ont eu un rôle structurant dans l'organisation du capitalisme. Alors en Russie, l'histoire s'est écourtée, mais aux États-Unis, c'est clair. Alors franchi à nouveau l'Atlantique, mais ce qui est, moi, un des phénomènes qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point les profits de la Standard Oil, donc qui devient très très rapidement la plus grosse boîte de tous les temps, en termes de chiffre d'affaires et en termes de profits, c'est cette capacité naturelle qu'a le pétrole à générer des profits comme nul autre produit, vont aboutir à l'émergence des deux plus grandes banques du XXe siècle, que sont la Chase Manhattan et ce qui va devenir Citibank. Et rien que ça, je trouve que c'est un phénomène écologique intéressant. Si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, toujours dans ces premiers temps de cette aventure, là, il y a une histoire absolument fabuleuse. C'est le puits de Bibi Eybat. Donc ça, c'est à côté de Bakou.
Ça, c'est vraiment tout le début du bouquin.
27 septembre 1886, on découvre ce puits. Ce puits produit plus à lui tout seul que les 25 000 puits de pétrole forés aux États-Unis. Chaque jour. Et puis, tout d'un coup, il y a une explosion. En fait, c'est une espèce de fontaine, quoi. Pendant 15 jours, on a perdu 1 400 000 barils de pétrole. Mais c'est complètement fou, quand même. C'est un truc de...
On a
l'impression que toute la première partie du livre, c'est que de la démesure.
Alors, moi, il me semble que la démesure devient cauchemardesque, en fait. Enfin, qu'il y a une échappée d'un phénomène d'abondance, de puissance, qui est là, qui ne demande qu'à être récolté. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces grands geysers de pétrole ont disparu.
D'accord.
On n'en a plus, précisément parce que on a déjà écrémé sacrément ce qu'on pouvait récupérer comme or noir à la surface de la planète. Et ces puits qui généraient des profits incommensurables pour la bonne et simple raison que physiquement, ils jaillissaient de leur propre pression.
Ah oui, c'est
ça, c'est terminé. Ça fait longtemps que c'est terminé. C'est-à-dire que ces puits-là, on les a exploités et dans bien des cas, on les a déjà épuisés.
Depuis combien de temps, à peu près ?
C'est les années 60, la grande bascule. C'est vraiment la fin des Trente Glorieuses. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un lien très intime entre ce que c'est que les Trente Glorieuses et ce que c'est que l'abondance énergétique de cette époque-là.
Alors, on franchit le temps, mais quand même un mot, parce qu'il y a une phrase terrible de Clémenceau, président du Conseil, en 1917, il se trouve que l'armée française est à 3 semaines de la panne d'essence. Novembre, décembre 17, il envoie un message à Woodrow Wilson en disant urgence absolue,
on appelle au secours.
100 000 barils de pétrole arrivent. Bon. Et Clémenceau a cette phrase, je voudrais la retrouver exactement, il dit « Dans le futur, ça sera plus important, l'essence sera plus important. L'essence, dit Clémenceau, est aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. » C'est absolument...
Une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang. Eh ben, ça s'est avéré être presque une sous-estimation de la réalité. Quand on regarde à quel point l'accès à l'énergie abondante et pas chère, qu'on appelle le pétrole, a eu un rôle... C'est dans la guerre. Enfin, je veux dire, ce rôle-là, il est décisif. Le caractère décisif du rôle du pétrole est à mon sens, très visible dans toute l'histoire économique, mais il n'est jamais aussi saillant que dans la guerre. Et dans la deuxième guerre, dans la première guerre mondiale, le pétrole a un rôle décisif. On a Lord Curzon, qui était un ancien vice-roi des Indes, un très très grand diplomate britannique, qui a dit, juste après la victoire, il s'est dit, tiens, en quelque sorte, on pourrait dire que la victoire des Alliés était remportée sur une vague de pétrole. Quelques années plus tard, pendant les années 20, ce qu'aux États-Unis on appelle les années 20 rugissantes, donc c'est Tintin en Amérique, on se souvient de ces. Je crois qu'il y a même un lien direct entre une exploitation pétrolière et une ville champignon, une ville moderne avec ses premiers gratte-ciel, Chicago et Los Angeles. Los Angeles est littéralement poussé sur des champs de pétrole.
Il y a une photo très impressionnante.
On a un président pendant cette époque qui s'appelle le président Coolidge, le président américain Coolidge, qui est le président des années 20 rugissantes. On ne parle pas des années folles aux États-Unis, on parle des années 20 rugissantes comme le moteur de la Ford, qui dit, dans une analyse géostratégique qu'il écrit à l'époque, il dit « Il est bien possible que la puissance politique d'une nation soit fonction de sa capacité à mettre la main sur des ressources en pétrole adéquates pour effectuer cette puissance. » Et ça... Compte tenu de ce qu'on sait de l'histoire, ensuite, du déploiement de la puissance américaine, mais aussi de la puissance française, puisqu'on est allé au Gabon, on est resté...
On y viendra sur les accords Sykes-Picot, puisque ça s'entend.
Deux grands butins de la Première Guerre mondiale, il se trouve qu'ils sont de nature énergétique. Il y a la Ruhr et la Mésopotamie, ce qu'on n'appelle pas encore l'Irak. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du pétrole là. Les Anglais ont mis les deux dans la balance. Ils ont dit à Clémenceau, attention...
Ça, c'est Lloyd George qui dit ça.
Exactement. Lloyd George qui dit, vous nous laissez ce qui va pas, ce qui s'appelle pas encore l'Irak.
C'est Laurence d'Arabie, quoi.
Hein. Exactement. Ouais. Vous nous laissez Mossoul. Ouais. Et on vous mettra pas trop des bâtons dans les roues pour avoir la roue. Voilà. Et je trouve ça éclairant de se rendre compte que les deux butins de guerre, les deux grands butins de guerre de la Première Guerre mondiale, le charbon et le pétrole, sont de nature énergétique. Et il y a la compréhension avec la mécanisation très rapide, avec les chars, avec l'aviation, du caractère décisif de l'énergie pour effectuer une puissance. Pourquoi ? Enfin, c'est la puissance, ou même le progrès, on a compris ça beaucoup comme des phénomènes à échelle strictement humaine. Une histoire de volonté de puissance, par exemple. Mais quand on parle de puissance, littéralement, si on est un petit peu scientifique, on parle d'énergie, puisque la puissance, c'est simplement un rapport entre l'énergie et le temps. C'est simplement la vitesse à laquelle vous pouvez effectuer une puissance. Et ce rapport, c'est pas juste une vaine expression, ça permet de comprendre pourquoi, par exemple, c'est assez vain de s'émerveiller devant l'avion solaire. Je ne sais plus comment il s'appelait, là, le Solar Impulse. Il n'y aura jamais de gros porteur solaire pour une question de puissance. L'énergie, on peut la stocker, mais la puissance nécessaire pour faire décoller un gros porteur chargé de vacanciers avec leur valise, il n'y a que le kérosène qui sait faire ça. À moins qu'on commence à mettre des réacteurs nucléaires dans les avions de ligne, mais je doute que... physiquement, à nouveau, c'est impossible.
Alors, il y a eu des tentatives d'énergie de substitution. Les nazis, par exemple... ont développé cette notion avec l'hydrogénation, hein, dans des conditions d'ailleurs absolument immondes. Hein. Même si vous avez montré très bien de manière stratégique, ça c'est passionnant, comment le passage d'un indice d'octane de 87 à 100 faisait passer le moteur des Hurricane et des Spitfire de 1030 chevaux.
De 1000 à 1300 chevaux.
À 1300 chevaux. Donc avec efficace. Une supériorité aérienne, ouais. Sur les Messerschmitt. Bon. C'est quoi cette histoire d'essence synthétique, en fait. C'est comme ça que vulgairement on appelait le produit. Comment les Allemands ont réussi à faire quelque chose là-dessus ?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir ce fameux documentaire qui s'appelait « De Nuremberg à Nuremberg ».
Frédéric Rossif.
Moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais même lycéen. Mmh. Ça commence, je ne sais pas si vous vous rappelez, le début, il commence pratiquement en faisant la liste des prix Nobel de chimie physique allemands. C'est-à-dire que de 1905, alors... il y avait un Autrichien dans l'histoire. Mais disons que les Allemands avaient les meilleurs scientifiques du monde. Mmh. En particulier les meilleurs chimistes et les meilleurs physiciens, massivement. Ce qui leur a permis, entre autres choses, de développer des techniques complètement inouïes de transformation d'un produit en un autre, de transmutation pratiquement. Donc ils ont développé, durant la Première Guerre mondiale, plusieurs techniques permettant de transformer en carburant liquide des gaz de charbon. Et avec ça, les nazis ont cru avoir précisément la source de pétrole qui leur faisait défaut. C'est-à-dire que la grande leçon tactique de la Première Guerre mondiale, c'est qu'il fallait qu'une flotte fonctionnant au charbon ne pouvait pas faire jeu égal avec une flotte fonctionnant au pétrole, pour des raisons bêtement physiques. C'est-à-dire que c'est plus léger, il n'y a pas besoin d'avoir de soutier. Voilà. Vous pouvez faire des navires plus rapides, des avions plus rapides, plus mobiles, plus légers, donc avec plus d'armement, etc. Donc c'était un avantage décisif. Et il se trouve que les deux agresseurs et les deux perdants de la Seconde Guerre mondiale sont des pays qui, précisément, n'ont pas de sources abondantes, en tout cas, de pétrole sur leur territoire. Et les deux grandes batailles emblématiques, peut-être les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, ont tout à voir avec le pétrole. Stalingrad, c'est littéral, puisque l'idée, c'est de mettre la main sur Bakou, donc la grande source de pétrole eurasiatique. Et dans le cas des Japonais également, la puissance japonaise ne pouvait pas s'effectuer de manière autonome parce que la flotte nippone était à 100% dépendante du pétrole américain, et en particulier du pétrole de Californie. Et on voit le nœud de la guerre se resserrer de manière inexorable. Roosevelt sait absolument, et les tacticiens, les stratèges japonais tout autant, savent que le jour où les États-Unis coupent le robinet d'essence traversant le Pacifique pour alimenter la flotte de guerre nippone, c'est la guerre. Mais... Et c'est ce qui s'est passé. Et donc précisément, Pearl Harbor. L'idée tactique de Pearl Harbor, c'est de repousser la flotte américaine le plus loin possible dans le Pacifique pour protéger le flanc gauche de la flotte nippone, pour qu'elle ait le temps de mettre la main sur la seule ressource abondante de pétrole dans la région, qui sont les Indes néerlandaises, ce qui va devenir l'Indonésie.
Alors,
Et tout ça ne suffira pas. Voilà, ouais. C'est ça. Pour boucler sur votre question, c'est que tout ça ne suffira pas. Hitler le dit explicitement. Ils se rendent compte, dans le courant de la guerre, que les sources de pétrole synthétique allemande et alors, le Japon n'avait même pas pu développer d'industrie de pétrole synthétique, ne pouvait absolument, en aucun cas, faire jeu égal avec le flot massif de la première, du premier producteur mondial qui était les États-Unis.
Vous dites même que ça a des impacts sur la stratégie, puisque vous dites que c'est par là que s'explique la blitzkrieg. En gros, il fallait qu'ils gagnent très vite, sinon ils avaient des soucis de...
La blitzkrieg est conceptualisé comme une tactique de guerre adaptée à une armée n'ayant pas beaucoup d'énergie. Oui, donc vous faites un coin,
ça, c'est passionnant.
Vous avancez un coin avec, en mettant le maximum de votre puissance sur un angle.
Qu'on appelle le coup de poing.
Voilà. Et ensuite, vous faites des batailles de chaudron en revenant sur vous-même. Il n'est pas question d'avancer sur un front très étendu. Il faut faire des coins. Et c'est une tactique de guerre adaptée à une armée qui n'a pas des ressources inépuisable en pétrole. Et tout le fantasme, le mot n'est pas juste, mais toute cette image qu'on a de la Wehrmacht, d'une armée extrêmement mécanisée, le Panzer, etc. En fait, je donne des témoignages de soldats américains, d'officiers, qui sont très très surpris de voir qu'en fait que la retraite allemande s'effectue à pied et à vélo ou à cheval. Je raconte notamment c'est un soldat américain qui est très très surpris de voir des centaines de cadavres de chevaux noyés au cours de la retraite dans l'Arno à Florence, et les Américains ils avancent en jeep. Ils n'ont aucune espèce de restriction, de contrainte dans leur capacité à se mouvoir. L'armée américaine, il faut quand même imaginer ça, peut déployer sa puissance sur trois océans. C'est-à-dire qu'il y a le Pacifique, il y a l'Atlantique, mais il y a aussi l'océan Indien, puisque le ravitaillement par l'armée américaine à travers la Perse, à travers l'Iran, arrivant en Union soviétique, a eu un rôle tout à fait important dans la capacité des armées staliniennes.
Demain, c'est le 6 juin 2015. Ça fait 71 ans qu'il y a eu le débarquement. Il y a cette fameuse histoire du Pluto, le pipeline qui est très vite tiré, on peut dire, entre les côtes anglaises et la Normandie, et qui va être le cordon ombilical qui va alimenter tout le corps expéditionnaire américain. Alors, on pourrait discuter pendant des heures et des heures, parce que c'est passionnant, vraiment, dans la période de ce que vous appelez l'été, c'est-à-dire la période de l'apogée, il y a, entre autres, la guerre de 73 du Kippour, premier choc pétrolier. Vous dites... Cette guerre, pour la première fois, les pays arabes, au sein de l'OPAEP, pas l'OPEP, ont eu l'idée de se servir de pétrole comme une arme pour faire pression sur les Américains pour qu'ils cessent d'aider l'armée israélienne. Et vous dites, la grande alliance États-Unis-Arabie Saoudite aurait pu être terriblement secouée, bousculée par ça. Et vous dites finalement, alors je retrouve les termes, elle n'a jamais été aussi solide, elle va se retrouver... renforcé et consolidé. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors d'abord...
je vous lis, page 380. Le rôle que les États-Unis choisissent de jouer dans la victoire israélienne de 73 est bien entendu une épreuve extrême pour l'alliance la plus stable dans la région et la plus nécessaire aussi, celle de l'Arabie saoudite. Cette alliance ressortira de la guerre plus étroite, plus secrète et plus importante que jamais. Expliquez-nous ça.
Alors... D'abord, l'arme du pétrole, c'est pas en 73 que les pays arabes tentent de l'utiliser pour la première fois. Et justement, c'est très instructif. Ils ont essayé de l'utiliser une première fois en 67, pendant la guerre des six jours. Mais ça n'a pas marché, parce qu'à ce moment-là, le marché pétrolier était en situation de surabondance. Donc faire un embargo, ça faisait pas grand-chose. En 73, la situation s'est complètement inversée. Elle s'est renversée, même littéralement, à cause d'un phénomène que j'ai mentionné au début de notre entretien, qui est le pic de la production américaine. C'est-à-dire que la ressource première de puissance de l'Amérique ne lui suffit plus, s'épuise au Texas, en Oklahoma, entre en déclin 3 ans avant le choc pétrolier. Et il y a une thèse dans le bouquin que je ne suis pas le premier à défendre, mais dont je crois avoir fait une synthèse très complète. Il y a beaucoup d'arguments qui permettent de comprendre que précisément l'impact qu'a pu avoir, qu'a eu le choc de 73, a beaucoup à voir, non pas avec la détermination des souverains arabes de l'OPEP, mais avec le fait, avec un phénomène physique qui fait que le marché pétrolier s'est renversé et que l'arme du pétrole, qui était inefficiente, d'un coup devient dévastatrice parce qu'il n'y a plus assez de pétrole pour alimenter correctement le marché. Et ce qui va se passer derrière, c'est un flot de pétrole, de ce qu'on va appeler les pétrodollars. Et il y a un accord. Il y a un modus vivendi qui est trouvé entre Washington et Riyad, qui consiste, à partir de 1974, à trouver des accords bancaires qui permettent de rebrancher l'essentiel de ce qui sort des poches des automobilistes occidentaux et qui arrive autour du Golfe Persique et en Arabie Saoudite en particulier, et de le rebrancher sur Wall Street. D'accord. Et on a eu, il y a des études qui montrent qu'il y a plus de dollars qui reviennent à Wall Street que de dollars qui sont sortis des poches des automobilistes américains, beaucoup plus. Il y a d'une part ça, et on voit que l'Arabie Saoudite a jamais concrètement. Le monde arabe n'est pas du tout, on le sait plus que jamais aujourd'hui, n'est très loin d'être homogène. Au sein de l'OPEP, il y avait des jusqu'au-boutistes et il y avait des gens dont, des jusqu'au-boutistes à l'époque, c'était l'Algérie, c'était l'Irak, c'était la Libye de Kadhafi, qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de mettre à genoux. Enfin, c'est un peu plus compliqué, ceci dit. Ouais. Mais en tout cas, qui voulaient vraiment se servir de l'arme du pétrole pour atteindre la moelle épinière de l'économie occidentale. Et puis, il y avait les potentats du Golfe Persique qui, eux, ce sont des pays très peu peuplés. Ce sont des pays où la puissance du prince peut être très, très vite remise en cause de manière violente, radicale et rapide. Donc ces pays-là, eux, en particulier l'Arabie Saoudite, leur intérêt principal, c'était de ne pas trop fâcher les Américains. Et d'ailleurs, pendant l'embargo de 73, on a su, par des documents déclassifiés plus tard, que les Saoudiens alimentaient la 6e flotte américaine. On était en pleine guerre du Vietnam. Il n'était pas question. Voilà, donc pour amuser la galerie, on a fait croire que cet embargo était extrêmement rigoureux. Il ne l'était pas. Et ce qui est... Si vous me permettez encore de développer cet épisode qui est un moment pivot de l'histoire du XXe siècle. C'est très, très important. Et moi, je pense, c'est une des thèses du bouquin, je pense qu'on n'a fondamentalement pas compris ce qui s'est passé en 73 et qu'on commence à peine à découvrir la profondeur du jeu de quelqu'un qui était extrêmement madré et dont on sait qu'il était habile, qui est Kissinger. Alors, pourquoi, si vous m'accordez 5 minutes là-dessus...
Parce que on est presque, j'allais dire, au cœur du réacteur pour parler d'une autre...
Bah, on ne sait pas tout, hein. Il y a... Alors, moi, j'aime bien les théories du complot. Je trouve que c'est un jeu intellectuel intéressant.
Ça ressort quand même assez globalement du bouquin, hein. J'allais vous le dire.
Je trouve que c'est un peu un violon dingue. C'est un jeu intellectuel qu'en tant que journaliste d'investigation, j'aime bien explorer. Ouais. Et il se trouve que une théorie du complot, ça existe vraiment, les complots. Bah, ils ne sont pas tous ils sont pas tous des chimères.
On fréquente ce milieu-là, il y en a quand même un certain
nombre. Oui. Non, mais c'est certain. La sophistication de la diplomatie américaine, et en particulier de la diplomatie dans les domaines économiques, et en particulier dans les questions pétrolières, est tout à fait remarquable. Bon, alors, pour revenir à 73 rapidement, il y a deux phases, en fait, dans le choc de 73. Il y a la guerre du Kippour, en octobre. Dans la guerre du Kippour, ce sont les pays arabes qui disent il y aura embargo et il y aura renchérissement, on va dire, relativement modeste et attendu, qui ne surprend pas du tout les pétroliers occidentaux et les diplomates américains du pétrole. Le cours du baril double une fois. Double une première fois, après avoir été d'une stabilité remarquable grâce à la cartélisation des compagnies occidentales, les Sept Sœurs.
Sette Sorelle, comme dit Enzo Mattei.
Donc le prix du pétrole double une première fois, mais c'est une augmentation qui était tout à fait... on le comprend maintenant en regardant précisément ce que racontaient les analyses économiques à ce moment-là, qui est tout à fait prévisible. Et le vrai choc pétrolier, c'est pas octobre, ça se passe en décembre. À l'issue d'une conférence de presse du Shah d'Iran, qui a été surnommé le massacre de la veille de Noël, parce que c'est le Shah, donc qui n'en avait pas grand-chose à faire du sort des Palestiniens, qui était le meilleur allié d'Israël dans la guerre du Kippour, qui n'est pas arabe, qui, en quelque sorte, remet de l'argent dans le jukebox et déclenche un second doublement du cours du baril, qui est le vrai choc. Et si on y réfléchit deux secondes, effectivement, il s'agit de tout à fait autre chose que de punir les alliés d'Israël, précisément parce que le Shah d'Iran, il s'entend très très bien avec les Israéliens. Et dans les justifications qu'il donne pour avoir soutenu un renchérissement qui était attendu donc par les jusqu'au boutistes, l'Irak, l'Algérie, la Libye, il y a des arguments qui sont tout à fait, alors qui n'ont rien à voir avec la Palestine, mais qui sont tout à fait les arguments des pétroliers occidentaux, qui seront a posteriori déployés une fois que cette augmentation du baril sera devenue un fait acquis. Et ces arguments, c'est il nous faut des investissements, il nous faut un prix du baril plus élevé, parce que sinon, on ne peut pas développer ce qui va être développé, la mer du Nord, l'Alaska, et un certain nombre d'autres sources à l'ouest de Suez, qui sont les premières sources de pétrole complexes et coûteuses. Et le smoking gun, comme on dit, la preuve que cette théorie du complot pourrait ne pas être totalement farfelue, c'est une déclaration qui a été faite par le Cheikh Yamani. Donc le Cheikh Yamani, ceux qui se rappellent de cette période-là s'en souviennent peut-être, c'était le ministre du pétrole saoudien. Un personnage un peu méphistophélique, avec une petite barbichette comme ça, qui est quelqu'un de très gentil, moi, que j'ai eu l'occasion de croiser rapidement deux fois, et qui, en 98, donc bien après les faits, il était dégagé de ses fonctions, retraité. Il y a un journaliste du Guardian qui vient le voir et qui lui dit « Mais bon, entre autres choses, racontez-nous votre vie très mouvementée. » Et Yamani a envie de s'attarder et de parler de 73. Et lui dit, et il dit au journaliste, ben, en 73, nous, on a été très, très étonnés par ce massacre de la veille de Noël. Le roi m'a demandé, le roi d'Arabie Saoudite, m'a demandé d'aller à Téhéran et de dire, mais pourquoi renchérir, en fait, alors que les choses étaient en train de se régler. Le Cheikh Yamani a dit que ce que lui avait dit le Shah d'Iran, la raison pour laquelle le Shah d'Iran avait créé le vrai choc pétrolier, le Shah d'Iran lui aurait dit, vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça, demandez à Kissinger.
Lequel Kissinger, vous dites, a été formé, entre autres, au Council of Foreign Policies.
Bah, c'est un protégé des Rockefeller.
Rockefeller, hein, comme Madeleine Albright, comme Dick Cheney, comme Madame Greenspan. Kissinger, quels étaient, dans les différentes... polure d'oignon qu'on peut enlever du personnage. Quel était le dessin profond, si tant est qu'on ait pu le cerner, celui de Kissinger? Uniquement une dimension spéculative
dans le 73,
ouais,
vous voulez dire,
et dans sa stratégie par rapport au pétrole.
Alors, je suis journaliste, donc comme un historien, j'essaie de pas trop m'avancer. Il se trouve qu'il y a un faisceau d'éléments qui tendent à corroborer le fait que, d'une part, le choc de 73 est la conséquence de l'insuffisance des capacités de production américaines. Mmh. Donc pas un truc du tout qui prend ses racines autour du Golfe Persique, mais un truc qui a ses racines dans l'insuffisance des puits texans et d'Oklahoma et de Californie. Ça, c'est un. Et ça, c'est tout à fait... aujourd'hui, c'est tout à fait... c'est convaincant, en tout cas. C'est pas encore la thèse dominante, historiquement, mais quand même, il y a deux, trois éléments. Et alors ensuite, il se trouve que sur cette idée que les pétroliers occidentaux avaient besoin d'un prix du baril plus élevé pour pouvoir s'affranchir, paradoxalement, de l'OPEP et développer des sources de pétrole coûteuses qu'on savait être là, donc en mer du Nord, en Alaska et ailleurs, ce qui se rapproche le plus d'une preuve de cette hypothèse, c'est plusieurs communiqués de presse qui paraissent avant le choc, qui émanent de Exxon, qui émanent de la Chase Manhattan Bank, donc qui est la grande banque des Rockefeller, dont je parlais tout à l'heure, et qui disent, avec le cours du baril qu'on a là avant le choc, donc 2 dollars le baril,
il n'y a pas le compte.
On n'a pas les capacités d'investissement nécessaires. Donc voilà.
Je suis désolé, je suis
dans. J'espère que d'autres exploreront cette thèse parce que ça reste une hypothèse, mais il me semble qu'elle est quand même cohérente.
Franchement, je vous encourage. Hein, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà au moins entendu parler de ce livre. Prenez-le, lisez-le. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il y a 30 chapitres. Hein, c'est vraiment une dimension est tout à fait essentielle.